Partie 1. Compréhension orale. Cette partie du test comprend trois sous-parties. Vous allez écouter trois enregistrements. Vous écouterez chaque enregistrement deux fois. Pendant l'écoute, répondez aux questions sur la feuille qui correspond. Suivez les instructions pour savoir quelle feuille vous devez remplir. Maintenant, prenez la feuille marquée d'une croix. Première sous-partie, les cantines bio. Écoutez cette analyse de Clémentine Desfemmes, spécialiste de l'alimentation biologique. Pour les questions suivantes, de 1 à 7, choisissez la bonne réponse A, B, C ou D. À chaque fois, une seule réponse est correcte. Indiquez vos réponses sur la feuille marquée d'une petite croix. Maintenant, vous avez 2 minutes pour lire les questions de 1 à 7. Maintenant, écoutez le texte.
Les produits bio s'invitent dans notre quotidien et pas seulement à la maison. En restauration collective aussi, les aliments biologiques se multiplient. Mais il existe certains freins au développement de ce type d'alimentation dans les cantines scolaires. En effet, un repas bio coûte généralement plus cher qu'un repas classique. Il est donc difficile pour les établissements de passer au tout bio. Pour pouvoir quand même servir du bio, il faut avoir des astuces dans la composition des menus. Proposer des portions plus petites, donner moins de viande, cuisiner les pâtisseries sur place au lieu de les faire livrer toutes prêtes. La livraison de produits bio est un autre problème. Les entreprises qui vendent du bio ne sont pas encore adaptées au marché de la restauration collective, qui exige de fournir des volumes importants et des distributions fréquentes. L'offre reste insuffisante en France pour répondre à une demande croissante. Pour toutes ces raisons, il est difficile, pour ne pas dire impossible, de passer au 100% bio du jour au lendemain dans une cantine. Par conséquent, chacun essaie de trouver des solutions concrètes et efficaces. De nombreuses écoles, collèges et lycées décident de choisir un menu bio complet de manière ponctuelle mais régulière, c'est-à-dire une fois par mois. Grâce au passage progressif du zéro bio au tout bio, les différents partenaires pourraient pourtant bénéficier de plusieurs avantages. D'abord, les comptables des établissements scolaires pourraient mieux planifier leurs dépenses. Ensuite, les producteurs bio pourraient mieux s'organiser pour répondre aux besoins de ce nouveau marché. Ils augmenteraient les quantités produites selon la demande. Puis, les cuisiniers reviendraient à des modes de préparation plus traditionnels, en travaillant par exemple des produits frais. Enfin, concernant les enfants, l'enjeu est multiple. Manger bio à la cantine est tout d'abord synonyme de santé. Fruits, légumes, céréales sont cultivés sans engrais chimiques ni pesticides. La viande, le poisson et les produits laitiers sont issus d'animaux nourris avec une alimentation bio, élevés dans des conditions respectueuses de leur bien-être et soignés autant que possible sans antibiotiques. Mais pour ces enfants, cela va bien au-delà de la simple qualité de la nourriture. L'enjeu est également pédagogique, car manger bio et en avoir conscience, c'est une illustration concrète de ce qui est enseigné en classe. L'éducation au goût, la redécouverte du rythme des saisons, l'apprentissage de l'équilibre nutritionnel et la lutte contre l'obésité, le respect des aliments. On peut y voir une application concrète de ce qui est enseigné dans le programme scolaire. Enfin, pour l'environnement, l'objectif est de développer une agriculture plus respectueuse de l'écosystème. L'agriculture biologique, c'est aussi bon pour la planète. Plus les agriculteurs bio seront nombreux, mieux les ressources naturelles seront protégées. Favoriser l'agriculture bio préserve l'environnement et la qualité de vie. Attention cependant à ce que les productions soient locales, afin d'éviter les émissions de dioxyde de carbone lors du transport des aliments. En conclusion, vous l'aurez compris, le bio à la cantine, c'est bon pour tout le monde.
Maintenant, écoutez le texte une deuxième fois.
Les produits bio s'invitent dans notre quotidien et pas seulement à la maison. En restauration collective aussi, les aliments biologiques se multiplient. Mais il existe certains freins au développement de ce type d'alimentation dans les cantines scolaires. En effet, un repas bio coûte généralement plus cher qu'un repas classique. Il est donc difficile pour les établissements de passer au tout bio. Pour pouvoir quand même servir du bio, il faut avoir des astuces dans la composition des menus. Proposer des portions plus petites, donner moins de viande, cuisiner les pâtisseries sur place au lieu de les faire livrer toutes prêtes. La livraison de produits bio est un autre problème. Les entreprises qui vendent du bio ne sont pas encore adaptées au marché de la restauration collective, qui exige de fournir des volumes importants et des distributions fréquentes. L'offre reste insuffisante en France pour répondre à une demande croissante. Pour toutes ces raisons, il est difficile, pour ne pas dire impossible, de passer au 100% bio du jour au lendemain dans une cantine. Par conséquent, chacun essaie de trouver des solutions concrètes et efficaces. De nombreuses écoles, collèges et lycées décident de choisir un menu bio complet de manière ponctuelle mais régulière, c'est-à-dire une fois par mois. Grâce au passage progressif du zéro bio au tout bio, les différents partenaires pourraient pourtant bénéficier de plusieurs avantages. D'abord, les comptables des établissements scolaires pourraient mieux planifier leurs dépenses. Ensuite, les producteurs bio pourraient mieux s'organiser pour répondre aux besoins de ce nouveau marché. Ils augmenteraient les quantités produites selon la demande. Puis, les cuisiniers reviendraient à des modes de préparation plus traditionnels, en travaillant par exemple des produits frais. Enfin, concernant les enfants, l'enjeu est multiple. Manger bio à la cantine est tout d'abord synonyme de santé. Fruits, légumes, céréales sont cultivés sans engrais chimiques ni pesticides. La viande, le poisson et les produits laitiers sont issus d'animaux nourris avec une alimentation bio, élevés dans des conditions respectueuses de leur bien-être et soignés autant que possible sans antibiotiques. Mais pour ces enfants, cela va bien au-delà de la simple qualité de la nourriture. L'enjeu est également pédagogique, car manger bio et en avoir conscience, c'est une illustration concrète de ce qui est enseigné en classe. L'éducation au goût, la redécouverte du rythme des saisons, l'apprentissage de l'équilibre nutritionnel et la lutte contre l'obésité, le respect des aliments. On peut y voir une application concrète de ce qui est enseigné dans le programme scolaire. Enfin, pour l'environnement, l'objectif est de développer une agriculture plus respectueuse de l'écosystème. L'agriculture biologique, c'est aussi bon pour la planète. Plus les agriculteurs bio seront nombreux, mieux les ressources naturelles seront protégées. Favoriser l'agriculture bio préserve l'environnement et la qualité de vie. Attention cependant à ce que les productions soient locales, afin d'éviter les émissions de dioxyde de carbone lors du transport des aliments. En conclusion, vous l'aurez compris, le bio à la cantine, c'est bon pour tout le monde.
Maintenant, vous avez 30 secondes pour compléter les réponses de 1 à 7. Deuxième sous-partie. Le transport en roue libre. Écoutez ce reportage de TV5 Monde sur les transports en Europe. Pour les phrases de 8 à 13, dites si c'est vrai, A, faux, B, ou si ce n'est pas dit dans le texte, C. Indiquez vos réponses sur la feuille marquée d'une petite croix. Maintenant, vous avez 2 minutes pour lire les phrases de 8 à 13. Maintenant, écoutez le texte.
C'est une révolution. On pourrait même dire une vélorution. Bref, une révolution dans le monde du vélo. Figurez-vous qu'en Europe, en 2016, on a vendu plus de vélos que de voitures. D'accord, la voiture, c'est plus cher, oui. L'essence est hors de prix. Et évidemment, le vélo ne peut pas à lui seul remplacer tous les déplacements effectués en voiture. Cependant, il y a là un mouvement de fond. De plus en plus, le deux roues l'emporte sur le quatre roues. Un exemple. En Italie, on a vendu en un an 1 400 000 voitures et 1 600 000 vélos. N'est-ce pas surprenant? En somme, il y a de plus en plus de cyclistes. Ils roulent de plus en plus souvent, et sur des trajets de plus en plus longs. C'est dire si le phénomène est important. C'est aussi un fait de société. Il apparaît que chez les jeunes Européens en tout cas, la voiture n'est plus un signe extérieur de richesse. Eh oui, les temps changent. Allons voir de plus près la situation dans différents pays européens. Aux Pays-Bas, il y a désormais plus de vélos que d'habitants. Et cela fait longtemps que le vélo y est roi. Les Hollandais ont toujours donné l'exemple dans ce domaine, avec, c'est important, des structures qui permettent ce mode de déplacement. Parking, pistes cyclables, recharge pour vélos électriques, etc. Mais tous les pays n'ont pas encore adapté leur ville à ce type de trafic. Prenons le cas de l'Espagne. Là aussi, on a vendu plus de vélos que de voitures. Mais Madrid n'est pas Amsterdam. La ville est encore inadéquate, voire dangereuse pour le vélo. Il y a plusieurs projets, dont celui d'une piste cyclable qui devrait entourer le centre historique de la ville sur 10 km. À Londres, écoutez bien, on imagine pour le futur un incroyable système de pistes cyclables aériennes. Oui, une piste construite au-dessus des actuelles voies ferrées. Autre grand projet, celui de la ville de Milan, qui va mettre en place un système de vélos en libre service. Quant à la Slovaquie, elle souhaite encourager l'usage du vélo en développant ses structures. Elle espère atteindre 10% d'utilisateurs réguliers d'ici 2020. Grâce au vélo, fini les embouteillages, les problèmes de parking, le temps perdu dans les transports. Sachez qu'il se fabrique en moyenne 4 vélos par seconde dans le monde. Et quel est le plus gros producteur de vélos dans le monde ? La Chine, avec à elle seule une part équivalente à 58% du marché mondial. Un jour, peut-être, il y aura en Chine autant de vélos que d'habitants. Ce serait là encore une formidable révolution.
Maintenant, écoutez le texte une deuxième fois.
C'est une révolution. On pourrait même dire une vélo-rution. Bref, une révolution dans le monde du vélo. Figurez-vous qu'en Europe, en 2016, on a vendu plus de vélos que de voitures. D'accord, la voiture, c'est plus cher, oui. L'essence est hors de prix. Et évidemment, le vélo ne peut pas à lui seul remplacer tous les déplacements effectués en voiture. Cependant, il y a là un mouvement de fond. De plus en plus, le deux roues l'emporte sur le quatre roues. Un exemple. En Italie, on a vendu en un an 1 400 000 voitures et 1 600 000 vélos. N'est-ce pas surprenant? En somme, il y a de plus en plus de cyclistes. Ils roulent de plus en plus souvent et sur des trajets de plus en plus longs. C'est dire si le phénomène est important. C'est aussi un fait de société. Il apparaît que chez les jeunes Européens en tout cas, la voiture n'est plus un signe extérieur de richesse. Eh oui, les temps changent. Allons voir de plus près la situation dans différents pays européens. Aux Pays-Bas, il y a désormais plus de vélos que d'habitants. Et cela fait longtemps que le vélo y est roi. Les Hollandais ont toujours donné l'exemple dans ce domaine, avec, c'est important, des structures qui permettent ce mode de déplacement. Parking, pistes cyclables, recharge pour vélos électriques, etc. Mais tous les pays n'ont pas encore adapté leur ville à ce type de trafic. Prenons le cas de l'Espagne. Là aussi, on a vendu plus de vélos que de voitures. Mais Madrid n'est pas Amsterdam. La ville est encore inadéquate, voire dangereuse pour le vélo. Il y a plusieurs projets, dont celui d'une piste cyclable qui devrait entourer le centre historique de la ville sur 10 km. À Londres, écoutez bien, on imagine pour le futur un incroyable système de pistes cyclables aériennes. Oui, une piste construite au-dessus des actuelles voies ferrées. Autre grand projet, celui de la ville de Milan, qui va mettre en place un système de vélos en libre service. Quant à la Slovaquie, elle souhaite encourager l'usage du vélo en développant ses structures. Elle espère atteindre 10% d'utilisateurs réguliers d'ici 2020. Grâce au vélo, fini les embouteillages, les problèmes de parking, le temps perdu dans les transports. Sachez qu'il se fabrique en moyenne 4 vélos par seconde dans le monde. Et quel est le plus grand, le plus gros producteur de vélos dans le monde ? La Chine, avec à elle seule une part équivalente à 58% du marché mondial. Un jour, peut-être, il y aura en Chine autant de vélos que d'habitants. Ce serait là encore une formidable révolution.
Maintenant, vous avez 30 secondes pour compléter les réponses de 8 à 13. Maintenant, prenez la feuille marquée d'un stylo. Troisième sous-partie. Séjour linguistique, que choisir ? Écoutez cet entretien avec Claire Dulac, spécialiste dans les séjours linguistiques. Pour les espaces de 14 à 20, complétez le texte qui résume. À chaque fois, vous devez utiliser un seul mot pour compléter le résumé. Écrivez les mots qui manquent sur la feuille marquée d'un stylo. Maintenant, vous avez 2 minutes pour lire le texte. Maintenant, écoutez le texte.
Aujourd'hui, nous rencontrons Claire Dulac, spécialiste dans les séjours linguistiques. Bonjour, Madame Dulac. Pourriez-vous nous présenter les nombreux avantages des séjours linguistiques ?
Oui. D'abord, un séjour linguistique, c'est essentiellement des cours de langue toute la semaine, 4 heures par jour. Durant les cours, la grammaire, le vocabulaire, la conjugaison sont étudiés. On travaille la compréhension et l'expression, l'oral et l'écrit. Selon les écoles, les méthodes employées diffèrent. Le travail se fait souvent sur la base d'exercices écrits, oraux, d'échanges entre les participants, de visionnage de films, de jeux. La disponibilité des professeurs est un atout et la flexibilité des cours permet de s'arrêter sur un point incompris. L'étudiant peut même demander au professeur de revenir sur un point précis lors d'un prochain cours. Dès l'arrivée dans l'école de langue, un test de niveau détermine la classe la mieux adaptée à chacun. Cela permettra au professeur de définir le type de cours qu'ils mettront en place dans leur groupe. Il s'agit donc d'un enseignement personnalisé bénéfique pour l'apprentissage.
Et l'immersion aussi représente un véritable bénéfice ?
Oui, c'est vrai. Être dans le pays de la langue étudiée est idéal pour progresser. L'obligation de parler constamment la langue du pays nous oblige à ouvrir notre dictionnaire, à se souvenir des mots, à être attentif à ce qui nous est dit.
Vous vouliez aussi insister sur l'aspect utile et agréable de ce type de séjour.
Les séjours linguistiques sont effectivement de véritables lieux d'échange. C'est la meilleure solution pour rencontrer des jeunes de son âge et de tous les pays. L'étudiant pourra facilement nouer des liens et trouver des amis pour sortir en soirée ou faire des excursions touristiques. La plupart des écoles proposent d'ailleurs des sorties de groupe utiles pour se socialiser. Et puis, un séjour linguistique, c'est certes des cours, mais c'est aussi des vacances. L'ambiance y est souvent bon enfant. Alors, si on doit partir en vacances, autant les choisir utiles et en profiter pour améliorer sa maîtrise d'une langue étrangère.
Et côté pratique ?
Partir en séjour linguistique provient souvent d'une envie de partir à l'étranger avant celle de prendre des cours de langue. L'avantage des séjours linguistiques, c'est qu'ils sont à la carte. Soit on choisit de prendre simplement des cours et on se débrouille pour se rendre sur place, trouver un logement, faire ses courses, etc. Soit on choisit des formules du type cours plus logement ou cours plus logement plus demi-pension, avec ou sans option, comme par exemple un chauffeur qui vous attend à votre arrivée à l'aéroport.
Est-il possible de travailler à côté ?
Si le séjour linguistique dure plusieurs mois, il est possible de trouver un petit boulot à côté des cours pour le financer. Ainsi, il est possible de continuer à travailler la maîtrise de la langue en dehors de l'école. Les emplois dans le milieu de la restauration, par exemple, sont très demandés.
Un séjour linguistique permet-il de préparer une certification ?
Oui, tout à fait. Le séjour linguistique est aussi un bon moyen de se préparer pour une épreuve importante, comme par exemple un test de langue ou un examen d'entrée à l'université.
Enfin, cette expérience est-elle vraiment un plus sur le CV ?
Absolument. Aujourd'hui, dans bien des domaines, il est indispensable de maîtriser au moins une, voire deux langues étrangères. Il ne faut pas oublier qu'une fois sur le marché du travail, la concurrence pour obtenir un emploi est rude. Et à CV égal, la maîtrise de langues étrangères peut faire la différence. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à partir en séjour linguistique.
Maintenant, écoutez le texte une deuxième fois.
Aujourd'hui, nous rencontrons Claire Dulac, spécialiste dans les séjours linguistiques. Bonjour Madame Dulac, pourriez-vous nous présenter les nombreux avantages des séjours linguistiques ?
Oui, d'abord un séjour linguistique, c'est essentiellement des cours de langue toute la semaine, 4 heures par jour. Durant les cours, la grammaire, le vocabulaire, la conjugaison sont étudiés. On travaille la compréhension et l'expression, l'oral et l'écrit. Selon les écoles, les méthodes employées diffèrent. Le travail se fait souvent sur la base d'exercices écrits, oraux, d'échanges entre les participants, de visionnage de films, de jeux. La disponibilité des professeurs est un atout et la flexibilité des cours permet de s'arrêter sur un point incompris. L'étudiant peut même demander au professeur de revenir sur un point précis lors d'un prochain cours. Dès l'arrivée dans l'école de langue, un test de niveau détermine la classe la mieux adaptée à chacun. Cela permettra aux professeurs de définir le type de cours qu'ils mettront en place dans leur groupe. Il s'agit donc d'un enseignement personnalisé bénéfique pour l'apprentissage.
Et l'immersion aussi représente un véritable bénéfice ?
Oui, c'est vrai. Être dans le pays de la langue étudiée est idéal pour progresser. L'obligation de parler constamment la langue du pays nous oblige à ouvrir notre dictionnaire, à se souvenir des mots, à être attentif à ce qui nous est dit.
Vous vouliez aussi insister sur l'aspect utile et agréable de ce type de séjour.
Les séjours linguistiques sont effectivement de véritables lieux d'échange. C'est la meilleure solution pour rencontrer des jeunes de son âge et de tous les pays. L'étudiant pourra facilement nouer des liens et trouver des amis pour sortir en soirée ou faire des excursions touristiques. La plupart des écoles proposent d'ailleurs des sorties de groupe utiles pour se socialiser. Et puis, un séjour linguistique, c'est certes des cours, mais c'est aussi des vacances. L'ambiance y est souvent bon enfant. Alors, si on doit partir en vacances, autant les choisir utiles et en profiter pour améliorer sa maîtrise d'une langue étrangère.
Et côté pratique ?
Partir en séjour linguistique provient souvent d'une envie de partir à l'étranger avant celle de prendre des cours de langue. L'avantage des séjours linguistiques, c'est qu'ils sont à la carte. Soit on choisit de prendre simplement des cours et on se débrouille pour se rendre sur place, trouver un logement, faire ses courses, etc. Soit on choisit des formules du type cours plus logement ou cours plus logement plus demi-pension, avec ou sans option, comme par exemple un chauffeur qui vous attend à votre arrivée à l'aéroport.
Est-il possible de travailler à côté ?
Si le séjour linguistique dure plusieurs mois, il est possible de trouver un petit boulot à côté des cours pour le financer. Ainsi, il est possible de continuer à travailler la maîtrise de la langue en dehors de l'école. Les emplois dans le milieu de la restauration, par exemple, sont très demandés.
Un séjour linguistique permet-il de préparer une certification ?
Oui, tout à fait. Le séjour linguistique est aussi un bon moyen de se préparer pour une épreuve importante, comme par exemple un test de langue ou un examen d'entrée à l'université.
Enfin, cette expérience est-elle vraiment un plus sur le CV ?
Absolument. Aujourd'hui, dans bien des domaines, il est indispensable de maîtriser au moins une, voire deux langues étrangères. Il ne faut pas oublier qu'une fois sur le marché du travail, la concurrence pour obtenir un emploi est rude. Et à CV égal, la maîtrise de langues étrangères peut faire la différence. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à partir en séjour linguistique.
Maintenant, vous avez 30 secondes pour compléter les réponses de 14 à 20. Maintenant, terminez le travail sur cette partie du test. Fin de la première partie. Continuez le test sur la page suivante.